Chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de L'écume des pages. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Laurent Binet autour de son dernier roman, La septième fonction du langage, un roman policier et aussi comique qui prend pour point de départ la mort de Roland Barthes. Bonne écoute à tous.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Vous êtes un écrivain et professeur de lettres. Vous avez notamment publié en 2010 HHHH, qui vous vaudra entre autres le prix Goncourt, du premier roman. À côté de ça, vous êtes agrégé de lettres modernes et vous enseignez dans la région parisienne, à l'Université Paris 8. Et vous venez de publier pour la rentrée littéraire 2015 La septième fonction du langage, qui a notamment reçu le prix du roman Fnac et le prix Interallié. Donc, votre roman part d'un fait historique, qui est la mort de Roland Barthes, renversé par une camionnette le 25 février 1980. Et vous allez, à partir de ce fait réel, imaginer un complot. Est-ce que finalement ce ne serait pas un accident? Et si Roland Barthes avait été tué? Donc pourquoi? Par qui? Dans quel but? Et donc deux personnages vont ainsi mener l'enquête sur sa mort. Donc un commissaire de police qui va être très terre à terre, donc Bayard, et un jeune professeur de linguistique, Simon. Donc ce duo loufoque, voire burlesque par moment, va ainsi partir à la recherche de cette mystérieuse septième fonction du langage. Donc, du coup, vous allez nous lire le premier extrait de votre roman. Nous vous écoutons.
La vie n'est pas un roman, c'est du moins ce que vous voudriez croire. Roland Barthes remonte la rue de Bièvre. Le plus grand critique littéraire du XXe siècle a toutes les raisons d'être angoissé au dernier degré. Sa mère est morte, avec qui il entretenait des rapports très proustiens. Et son cours au Collège de France, intitulé « La préparation du roman », s'est soldé par un échec qu'il peut difficilement se dissimuler. Toute l'année, il aura parlé à ses étudiants de haïkus japonais, de photographie, de signifiants et de signifiés, de divertissements pascaliens, de garçons de café, de robes de chambre ou de place dans l'amphi, de tout sauf du roman. Et ça va faire 3 ans que ça dure. Il sait forcément que le cours lui-même n'est qu'une manœuvre dilatoire pour repousser le moment de commencer une œuvre vraiment littéraire, c'est-à-dire qui rende justice à l'écrivain hypersensible qui sommeille en lui, et qui, de la vie de tous, a commencé à bourgeonner dans ses fragments d'un discours amoureux, déjà la Bible des moins de 25 ans. De Sainte-Beuve à Proust, il est temps de muer et de prendre la place qui lui revient au panthéon des écrivains. Maman est morte, depuis le degré zéro de l'écriture, la boucle est bouclée, l'heure est venue.
Alors, première question, votre sous-titre, et donc le titre un peu catchy, qui a tué Roland Barthes? Et donc cela va donner l'impression que finalement, le meurtre de Roland Barthes est le centre de votre histoire. Sauf qu'en fait, ça va être très vite mis de côté pour une enquête plus profonde, on va dire. Est-ce que, justement, votre inspiration première en écrivant ce roman, c'était de faire un livre sur Roland Barthes, ou est-ce que finalement, c'était un simple prétexte?
Non, c'est pas un prétexte. Le point de départ, Roland Barthes n'est pas le centre, peut-être, mais c'est le point de départ. La mort de Barthes, c'est ce qui enclenche tout. D'une part, d'autre part, Barthes était sémiologue et toute l'idée de mon livre, c'est d'appliquer la sémiologie, la science des signes, à une enquête policière, considérant que finalement la science des signes, la science du décryptage est à peu près équivalent à la science de Sherlock Holmes. C'est d'ailleurs pour ça que l'un de mes deux enquêteurs, Simon Herzog, porte les initiales de Sherlock Holmes, SH. Ça, c'est pour la première chose. Et ensuite... Le sous-titre, comme vous l'appelez, en effet, donc c'est l'éditeur qui a mis en complément du titre, la septième fonction du langage, qui a tué Roland Barthes. Donc c'est c'est quand même l'objet de, enfin on peut pas mieux déterminer l'objet de l'intrigue, hein, puisque c'est une enquête pour savoir qui a tué Roland Barthes. En même temps, on peut aussi y voir une portée métaphorique. C'est vrai que 1980, la mort de Barthes, suivie par la mort de Sartre, et puis ensuite la mort de Lacan, la mort de Foucault en 84, c'est, disons que la mort de Barthes inaugure la fin d'une époque, si vous voulez. C'est pour ça que, donc on a dit que mon roman est un roman policier, un roman satirique. Bon, à mon avis, c'est plein de choses à la fois. C'est aussi un roman crépusculaire, parce que la mort de Barthes, c'est aussi le symbole d'une époque. Et par exemple, Michel Foucault, quand à l'époque, ça je savais pas, moi je l'ai imaginé dans mon livre, mais Tiphaine Sapmoyau dans sa biographie de Barthes explique qu'en effet, Michel Foucault, quand on est venu le voir après l'accident de Roland Barthes, qui est pas mort tout de suite, il a dit, mais voilà, ce sont les gens qui l'ont critiqué, qui l'ont tué. Ceux qui s'étaient moqués de lui parce qu'ils trouvaient qu'il jargonnait, Et donc, d'une certaine manière, symboliquement, c'est une question, je trouve, c'est la question de ce que Foucault appelait les intellectuels spécifiques, les intellectuels médiatiques. Sachant que Barthes était un petit peu à la frontière entre les deux, mais enfin, disons qu'en gros, dans l'idée de Foucault, c'était, il distinguait d'une part les universitaires ou les gens qui travaillaient un champ de spécialité, les intellectuels spécifiques, et puis les intellectuels médiatiques, ceux qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, vous voyez, et dont certains étaient déjà là à l'époque, en fait. C'est intéressant de voir que, dans mon livre, donc... L'entourage de Barthes, enfin, on suit l'enquête donc dans l'entourage de Barthes. L'entourage de Barthes, il est composé de beaucoup d'intellectuels connus à l'époque. Et c'est intéressant de voir dans mon livre qui est mentionné dans mon livre, qui est encore vivant, qui est mort, si vous voulez. Tous les Derrida, Deleuze, etc. sont morts. Et puis ont survécu les Solers et les BHL.
Très bien. Donc aussi, autre chose qui est assez étrange, c'est que d'un côté, on a un style simple, voire parfois grivois, vulgaire, dans la bouche notamment du commissaire Bayard. Et d'un autre côté, on a des pages entières de réflexions, d'approches de la sémiologie, de présentations de Foucault, de Jacobson. Donc du coup, finalement, à quel public se destine votre livre ? Est-ce que vous n'avez pas eu peur, en faisant donc, ces pages d'analyse assez poussées, de vous priver d'une partie de votre lectorat ?
Non, j'ai pas eu peur. Je pense que si on commence à raisonner comme ça, c'est pas une bonne façon de raisonner. C'est-à-dire, il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire. Ce que vous dites, c'est raisonner en termes de marketing. Et pour ce qu'on appelle la littérature, ça me semble pas une très très bonne approche. Ce dont vous parlez, c'est les registres, tout simplement. C'est des questions d'énonciation. Bah oui, un flic qui a fait l'Algérie, à peu près, a priori, qui a peut-être une licence de droit, mais qui n'est pas spécialement un intellectuel, il ne va certainement pas parler de la même façon que Deleuze en personne, ou même qu'un doctorant en linguistique, qui est l'autre membre du binôme, Simon Herzog. J'ai beaucoup travaillé la question des dialogues, les registres. Ce que vous qualifiez de vulgaire, moi je dirais plutôt familier, hein, simplement. Faut pas. Enfin, la vulgarité, c'est une question compliquée. Mais oui, c'est vrai que le flic a un langage assez, assez argotique et bon, de façon très logique, il ne parle pas de la même façon que Michel Foucault. Ouais.
Très bien. Et justement, est-ce que ce cours de linguistique, ou du moins cette approche de la linguistique que vous proposez à travers votre roman, est-ce que cela sert uniquement à la fiction, ou est-ce que c'est aussi un moyen de donner au lecteur finalement les clés, l'outil pour permettre finalement d'appréhender
Bien sûr. Mais pour moi, c'est la même chose, si vous voulez. C'est-à-dire c'est au service de l'intrigue, en effet, au service de la fiction, puisque la septième fonction du langage, cette mystérieuse septième fonction du langage, elle se fonde sur des concepts linguistiques qui existent, la fonction performative, qui a été théorisée par des linguistes, des philosophes du langage, Austin, Searle, etc., qui a été discutée, qui a donné lieu à une querelle très violente et très intéressante, qui était très intéressante pour moi d'un point de vue dramatique et romanesque entre Searle et Derrida. Donc d'une part, et d'autre part, évidemment que, si vous voulez, j'ai pas choisi cet objet-là, que l'objet de la quête de tous les personnages soit un objet linguistique, c'était pas un hasard, c'est parce que c'est le champ, moi, qui m'intéresse, et c'était une manière ludique, d'après moi, de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire une mise en abîme ou, un méta-récit, si vous voulez, c'est-à-dire le langage qui parle du langage. Et là, en l'occurrence, le roman qui s'interroge sur ses outils, donc la langue et puis la structure, puisqu'on est dans le milieu des structuralistes. C'est-à-dire une enquête qui se passe dans le milieu des gens un roman qui met en scène une enquête qui se passe dans le milieu des gens qui ont théorisé le roman, qui ont beaucoup réfléchi sur le roman. Ça, c'est ça qui m'a intéressé, qui m'a amusé, qui m'a motivé.
Donc, est-ce que, du coup, vous qualifieriez votre livre de roman de vulgarisation ?
Oui, si vous voulez. Enfin, disons, il y a un aspect, je pense, de vulgarisation. C'est-à-dire que, évidemment, que si je fais tout un truc sur la septième fonction du langage, cette fonction donc mystérieuse, mythique, qui n'existe pas vraiment, même si elle a quand même des fondements, c'est mieux, comment dire... Enfin, je trouve ça plus... Enfin, c'est presque une forme de courtoisie vis-à-vis du lecteur, là, en effet... De l'informer, de lui résumer rapidement quelles sont les six premières, si vous voulez. Oui. Donc de lui résumer Jacobson. C'est-à-dire, je voulais quand même que le roman puisse fonctionner de façon autonome auprès de qui veut, si vous voulez. Mais c'est-à-dire pas simplement auprès des linguistes, ça c'est sûr.
Et justement, il y a donc votre roman fourmille donc de références culturelles que vous avez déjà appréhendées, et aussi de références historiques, donc notamment cela lui pendant les élections présidentielles entre Mitterrand et Giscard. À quel moment vous avez décidé de vous baser sur la réalité, puis progressivement de vous éloigner pour aller vers la fiction ?
Dès le début, en fait. Ça m'a amusé de reconstituer cette époque que moi j'ai connue petit, j'avais 8 ans, 9 ans en 81. Et puis voilà, j'aime bien les reconstitutions historiques puisque c'est ce que j'avais fait déjà dans HHHH, sauf que là, le parti pris est inverse de celui d'HHHH où vraiment je m'attachais de façon obsessionnelle à reconstituer la vérité historique, si vous voulez, si tant est qu'on puisse l'atteindre. En tout cas, c'est ce que j'avais essayé de faire. Alors que là, dès le début, oui, j'avais envie de jouer avec ça. Parmi les romans qui m'intéressent, j'aime les romans qui se détraquent eux-mêmes, qui sont minés de l'intérieur et et d'une certaine manière... sans le savoir, à l'époque, je faisais j'avais une approche déconstructionniste, si vous voulez. La déconstruction de Derrida, c'est ça, c'est décomposer, c'est déterminer les mécanismes d'une structure pour en montrer montrer les rouages pour pouvoir la critiquer et la déconstruire. Enfin, c'est ça en fait la déconstruction. Et donc moi j'ai toujours bien aimé cette démarche là. Et donc assez vite, c'est ce que j'ai eu en tête, même si j'avais pas décidé encore des modalités. J'avais à mon avis l'un des moments les plus forts du livre, c'est quand je tue un personnage réel qui n'aurait pas dû mourir à cette époque-là. Voilà, donc ça, le jour où je me suis dit tiens, lui, je vais le tuer. J'étais content. J'ai pas eu cette idée tout de suite. Mais j'étais content. Je me souviens, je pense que c'était à la suite. J'avais lu un truc sur Stephen King. Stephen King qui donnait ce conseil au romancier. Il disait si vous pouvez tuer un personnage, tuez-le. Et donc là, c'est tombé sur lui. Ça m'intéressait ça m'intéresse les récits qui se détraquent.
Est-ce que vous étiez fixé une barrière, une limite en termes de dépassement de la réalité plus qu'à la fiction ?
Non, pas vraiment. J'avais pensé à tuer Mitterrand en 81. Finalement, donc je l'ai pas fait pour des questions d'intrigue, de bon. Des barrières, non. C'est-à-dire des barrières par rapport à la fiction, non. Des barrières par rapport aux gens qui ont vraiment existé, oui, bien sûr. Puisque l'autofiction, certains auteurs, eux, vont assez loin dans le dévoilement de la vie privée des gens, etc. Moi, j'étais pas du tout dans cette optique. Je suis allé, j'ai rien cherché de personnel sur ces gens. Je suis juste allé chercher je me suis attaqué à leur image, si vous voulez, pas à leur vie réelle. Il y a des éléments biographiques, bien sûr, dans le livre, mais qui sont connus de tous. Donc la limite, c'est ça, oui, bien sûr, c'est la vie privée des gens, c'est ce type de choses, quoi, vous voyez. Mais en termes de fiction, non, c'est vrai que ça m'a amusé d'imaginer que le père de Kristeva était chef des services secrets bulgares, ou... puisque comment dire, dans mon livre, la fiction s'exhibe sans arrêt en tant que fiction. C'est-à-dire, j'essaie de faire croire à personne que le père de Kristeva était chef des services secrets bulgares, ni même que Bart a été vraiment assassiné. J'ai vraiment conçu le livre sous forme de jeu et donc de fiction qui s'affirme en tant que fiction, c'est-à-dire aux antipodes d'une démarche biographique ou d'une démarche de révélation, si vous voulez.
Justement, comment est-ce que vous avez fonctionné dans votre travail de recherche? Parce qu'on imagine que cela a dû vous prendre énormément de temps pour avoir toutes ces références. Comment est-ce que vous avez...
C'est pas compliqué. J'ai beaucoup lu et ça m'a pris des années, quoi. Donc, disons que parmi les gens qui évoluent dans mon livre, il y en a dont j'étais familier, si vous voulez. J'étais familier de l'œuvre de Barre, de tous les linguistes, en fait, de Jacobson, Searle, Austin. Tout ça, c'est des questions que je connaissais, assez bien. J'étais moins familier de la French théorie pure et dure, en fait, des Foucault, de Deleuze, Derrida. Je me suis plongé dedans avec délice, je dois dire. Et j'ai lu, j'ai lu que ça quasiment pendant des années. Et j'ai procédé de façon assez méthodique, d'une certaine manière. Par exemple, Bologne, il y a Umberto Eco. J'ai relu, je connaissais bien, pas mal Umberto Eco, donc j'ai relu Umberto Eco. Mais je voulais que ce soit sous le signe de Deleuze aussi, parce que Bologne 77, enfin, les Italiens à l'époque étaient très deleuziens. Bref, j'avais envie que Bologne soit sous le signe de Deleuze. Donc pendant que j'écrivais Bologne, j'ai lu beaucoup de Deleuze. Ensuite, aux États-Unis, c'est le moment Derrida, donc là j'ai lu que du Derrida. Venise, j'ai lu beaucoup de Solers. Et ainsi de suite, quoi.
Et à l'inverse, le personnage de Bayard, c'est un personnage qui vous est venu spontanément pour trancher justement avec ce milieu intellectuel.
Oui, disons que, enfin, bon, j'ai pensé tout de suite, j'ai pensé au couple, si vous voulez, mais c'est-à-dire le personnage de Bayard, d'une certaine manière, c'est peut-être lui le plus caricatural finalement de mon livre. Parce que tous les flics ne sont pas forcément un petit peu aussi réac, un peu facho, un peu en même temps, c'est-à-dire si on imagine en 80 il a fait la guerre d'Algérie, etc. Toujours est-il que disons que j'ai pensé assez vite en termes de couple, c'est-à-dire que c'était évidemment ça s'appelle de la double énonciation en analyse littéraire, le fait qu'ils n'y connaissent rien allait permettre à mon autre personnage, le jeune doctorant Simon Herzog, de lui expliquer et par là même d'expliquer au lecteur ce qu'il avait besoin de, les clés qu'il avait besoin de connaître, ce qu'il avait besoin de savoir pour se repérer dans ce milieu de la linguistique.
Du coup, dans votre roman, ce qui ressort, c'est la critique du monde universitaire que vous faites, parce que tous les intellectuels que vous citez sont des gens quand même prétentieux, qui sont assez coupés de la réalité. Il y a le moment très drôle où Bayard a besoin d'un traducteur pour les énoncés de Roland Barthes, ce qui finalement est assez réel pour les gens qui ne sont pas habitués à l'œuvre de Barthes. Toutes les médisances, les conflits idéologiques qui ont eu entre ces intellectuels, est-ce que c'est quelque chose que vous avez personnellement ressenti dans votre travail ?
Oh, mais non, je crois que j'ai pas tellement forcé le trait. Je pense pas avoir tellement caricaturé. D'ailleurs, évidemment, j'ai un petit peu triché parce que j'ai redistribué les paroles, si vous voulez. Mais la majorité des dialogues sont constitués de citations de ces gens-là, extraits de leur texte. Ensuite, que ce soit qu'il y ait des guerres intestines, comme dans tous les milieux, non, particulièrement dans les milieux d'excellence, les rivalités sont féroces. Vous êtes bien placé pour le savoir. Les places sont chères. C'est aussi à mettre au crédit des Français, je pense, de prendre autant au sérieux les débats d'idées, si vous voulez. C'est-à-dire, on est en France, plus qu'ailleurs, on est vraiment capable de se détester, de se haïr pour des idées. En fait, ça surprend en général à l'étranger, les Italiens, les Espagnols, ils sont pas aussi... Moi, je trouve pas ça forcément négatif. Je trouve ça, en effet, parfois un peu ridicule, parfois burlesque. Foucault lui-même le disait... Il disait, tout ça, ce sont des querelles, des petites querelles sans importance, en fait. Et peut-être qu'on essaie de se donner de l'importance, en faisant croire que que c'est grave, mais en même temps, il y a des enjeux, il y a des enjeux idéologiques qui sont forts. Et moi-même d'ailleurs, je m'inclus pas dans ce monde des intellectuels, je me considère pas comme un intellectuel, mais disons que voilà, dans le monde du, enfin dans le débat d'idées de la France de 2015, je participe à titre, enfin parfois dans un article, mais même parfois juste devant ma télé, en invectivant les gens qui sont dans le poste, si vous voulez. Je vois bien que moi aussi, je suis capable de détester des gens que je ne connais pas simplement parce qu'ils n'ont pas ma conception de la littérature. Alors bon, j'essaie de faire d'avoir un peu de recul, de distance, et de me dire comme Foucault, de me dire bon, mais tout ça n'est pas bien grave. Mais bon, voilà, non, je crois pas avoir tellement exagéré. Pas plus d'ailleurs que j'ai emprunté un personnage à David Lodge, qui a écrit une trilogie sur le monde universitaire. Le personnage de Maurice Zapp, qui a écrit Small Places, Changing Place, Small World, un tout petit monde en français, Changing Places, j'ai oublié le titre en anglais. Il dépeint un monde aussi. D'ailleurs, à mon avis, il dépeint un monde qui fait preuve de moins de panache que le mien, mais d'autant de mesquinerie. Lui, il se focalise plutôt sur les mesquineries. Bon, je crois que, enfin, toute personne sérieuse et un peu honnête sait que voilà, c'est un milieu compliqué, un milieu féroce, et un milieu où il y a beaucoup de vanité, donc forcément beaucoup de ridicule.
Et c'était donc une manière un peu de tourner en ridicule ce ridicule-là. Votre livre ?
Non, pas du tout en fait. Enfin, disons,
il y a une satire qu'on peut baigner quand même.
Oui, il y a une satire, bien sûr, il y a une satire parce que, enfin, si vous voulez, si vous attaquez un. Enfin, si vous dépeignez un milieu, disons, si vous faites un roman et que vous dépeignez un milieu, à la limite, je sais pas, donnez-moi un exemple de roman qui soit une peinture d'un certain milieu et qui ne soit pas satirique. Je veux dire, Proust, c'est super satirique, Balzac, c'est très satirique. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois pas, en fait, comment éviter le... Bon, et là, il se trouve que j'avais des personnages, plein de panache, mais aussi plein de ridicule, qui avaient un gros potentiel burlesque. Et d'ailleurs, pas tous, si vous voulez... On me dit tout le temps, oui, alors Umberto Eco, il s'en sort bien, c'est le seul. Non, moi, je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Umberto Eco s'en sort pas si bien dans mon livre. Et par ailleurs, Deleuze, Derrida sont très bien traités, si vous voulez. Lacan, enfin, bon, faudrait voir au cas par cas, si vous voulez. Mais c'est vrai que, voilà, pour quasiment tous les personnages, il y a des choses qui m'ont passionné dans leur œuvre, qui m'ont ému dans leur vie, et puis qui m'ont aussi amusé, si vous voulez, qui m'ont aussi amusé. Voilà, donc c'était pas du tout prémédité la forme satirique, mais ça s'est imposé assez vite en fait.
Et est-ce que parmi tous ces intellectuels que vous citez, il y en avait un qui peut-être plus dans votre jeunesse de jeune universitaire était votre maître à penser ?
Ah ben s'il y en a un, c'est Barthes, ça c'est clair. C'est vraiment Barthes qui m'a appris mon métier. Moi je me suis en fait à force qu'on me pose la question, je me suis rendu compte. Je savais que Barthes avait été important, mais je savais pas pourquoi exactement, parce que je l'ai découvert tardivement, parce que j'avais d'abord commencé à faire de l'histoire, et en fait quand j'ai changé en licence en lettres, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes, j'avais raté l'initiation à la linguistique, enfin voilà, j'avais pas de base en linguistique, quasiment pas, et c'est Barthes qui m'a permis de combler ce retard. Et puis plus que ça, il m'a vraiment ouvert au-delà même des questions linguistiques, si vous voulez. Barthes a été ma porte d'entrée sur Saussure, sur Jacobson, sur tout le monde, Grémas, etc. Mais au-delà de ça, ça a été un modèle de pensée, si vous voulez. Ce mélange de rigueur et d'imagination, de rigueur structuraliste et d'imagination, romantique, disons, pour aller vite, je trouvais ça fascinant, quoi. C'est cette clairvoyance, cette faculté de décoder, de comprendre ce qui se passe. Et c'est ça, en plus. C'est pas simplement dans l'analyse littéraire. Je trouve que c'est un très, très bon critique littéraire. Mais c'est le sémiologue, le structuraliste, cette façon de penser de structuraliste, et puis les objets sémiologiques qui se donnaient, c'est-à-dire dépasser simplement le cadre des textes littéraires, mais analyser notre monde contemporain, les pubs, les magazines, la mode, les voitures, etc. Tout ce qu'on est, ce qu'on fait, c'est lui qui m'a donné vraiment une grille de lecture pour avoir une vision du monde plus critique, plus efficace, si vous voulez, plus perspicace, voilà. C'est-à-dire, il m'a appris vraiment la perspicacité.
Finalement, Roland Barthes, c'est quelqu'un qui est assez méconnu pour les gens qui ne font pas partie de ce milieu universitaire. Est-ce que c'était une sorte d'hommage, finalement ?
Ah bah bien sûr, oui, évidemment. Oui, absolument. Moi, vous êtes dur avec Barthes. Je pense que Barthes est plus connu que Derrida ou Deleuze en France. Deleuze est assez connu, hein, mais... Moi, je dirais ça de Derrida. Derrida, vraiment, c'est une star aux États-Unis, en France. Bon, voilà, régulièrement, on se souvient que, enfin, on fête un anniversaire de Derrida, mais Barthes, alors évidemment, peut-être dans la rue, tout le monde n'a pas entendu parler de Roland Barthes, c'est sûr. Mais je crois qu'il a laissé une, justement, dans cette façon de, comment dire, dans sa vision critique des choses et du monde, je crois qu'il y a plein de gens qui font du Roland Barthes sans le savoir, si vous voulez. Dès que quelqu'un va faire un petit article sur Facebook ou sur les selfies, en fait, c'est du Barthes, en général moins bon, évidemment, avec, pas les qualités de Barthes, mais cette démarche-là de prendre des objets de consommation, comme de partir du principe que ces objets de consommation nous disent quelque chose, signifient quelque chose. Bon, c'est Barthes qui nous a appris ça. Chercher la signification des choses derrière les choses, si vous voulez.
Alors, vous citez énormément d'universitaires et de chercheurs de l'époque. Donc, certains sont décédés, hein, donc on l'avait évoqué, donc Derrida, Foucault. Mais certains sont encore en vie. Et c'est ce qui va m'amener à ma dernière question. Est-ce que vous avez eu des retours de Kristeva et de Solers sur votre roman ?
Alors Solers n'est pas un universitaire, mais non, j'ai pas eu de retour direct. Je sais qu'ils sont fâchés, que voilà, et que bon bah en gros leurs amis disent du mal de mon livre. Bon voilà, ça m'empêche pas de dormir. Inversement, j'ai eu une belle lettre de Hélène Cixous qui fait une apparition dans mon livre, qui était la meilleure amie de Derrida, puis qui est une grande philosophe, une grande féministe. Donc voilà, je préfère que ça se passe dans ce sens-là. Une belle lettre de Cixous, oui. Et puis des critiques de Solers.
Donc finalement, ils n'ont pas peut-être perçu l'aspect ironique, ou si vous pensez que ça fait partie de...
Non, mais c'est-à-dire, je crois que, pour être honnête, contrairement à ce qu'eux essaient de faire croire, c'est vrai que je me moque... Enfin, eux essaient de faire croire que je me moque de Barthes pour défendre... En fait, faire semblant de défendre Barthes, en fait, en se défendant eux-mêmes, si vous voulez. Non, bon, la vérité, c'est que c'est vrai que je me moque plus de Solers que des autres dans le livre, et donc, bon, à la limite, je comprends qu'il soit fâché, mais en même temps, bon, c'est-à-dire, lui, ça fait 40 ans qu'il se moque de beaucoup de gens, et que, enfin, je veux dire, j'ai l'impression quand même qu'il manque un petit peu de recul.
Et BHL ?
Bah, BHL, lui, par contre, apparemment, il a rien dit.
Pas
il aurait
retour,
même. Il aurait même conseillé à Solers de laisser tomber, que tout ça, justement, voilà, que c'était pas bien grave. Donc, apparemment, non, Solers, lui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est vrai que Solers se targue toujours d'être dans la joie, il rigole toujours très fort, mais finalement, peut-être que BHL a plus d'humour que Solers.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Binet, pour vos réponses. Et on
Merci
vous retrouve
vous.
Ce soir à la Villa Gilet,
oui,
pour la grande conférence sur Roland Barthes, entre réalité et fiction.
Avec Tiffaine Samoyau.
Voilà, merci.